Radio Shalom, le journal.
Enfin libres, les trois otages Romy Gonen, Émilie Damari et Doron Steinbrecher sont arrivés en territoire israélien. Le bureau de Benjamin Netanyahou salue leur retour et réitère son engagement à ramener tous les captifs. Elzane Parienté nous dressera le portrait donc de ces trois otages. Un accord de cessez-le-feu suivi par une libération d'otages saluée à l'international. Un faux départ et des tensions qui illustrent la fébrilité ambiante au Proche-Orient. L'avocat et cofondateur de l'association des familles du 7 octobre, Sacha Gozlan, nous donnera quelques précisions. Hier soir, quelques milliers de personnes se sont rassemblées place du Trocadéro à Paris, mais aussi à Tel Aviv, afin de célébrer les 2 ans de Kfir Bibas, le plus jeune otage au monde. Notre journaliste Jérémy Chichportiche reviendra sur cette soirée entre soulagement et angoisse. Après plus de 15 mois d'attente, le cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne est entré en vigueur ce matin après que l'organisation terroriste du Hamas ait fourni à Israël la liste des 3 otages qui ont été remises cet après-midi aux forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Il s'agit de Romy Gonen, 24 ans, Émilie Damari, 28 ans, et Doron Steinbrecher, 31 ans. En territoire israélien, les 3 jeunes femmes ont pu y retrouver leurs parents avant de subir de premiers examens médicaux. A noter qu'Émilie apparaît lors de ses retrouvailles avec sa famille, la main bandée, témoignage des blessures qu'elle a subies lors de son enlèvement le 7 octobre à Kfar Aza, où elle avait reçu une balle qui lui avait coûté 2 doigts. La prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza aura lieu samedi prochain, a déclaré un haut responsable du Hamas. Et puis par ailleurs, la branche armée de l'organisation terroriste a déclaré que l'application du cessez-le-feu dépendra du respect des engagements par Israël au premier jour de la trêve et de l'accord d'échange d'otages et de prisonniers. Émilie Damari, Romy Gonen, Doron Steinbrecher, qui sont les 3 otages israéliens libérés? Elsa Pariente nous dresse le portrait de ces 3 Israéliennes.
Romy Gonen, aujourd'hui libre à 24 ans, elle avait été kidnappée par le Hamas au festival Nova le 7 octobre 2023, alors qu'elle tentait de fuir. Une vidéo publiée par le forum des familles des otages en novembre dernier la décrivait comme la fille avec le plus grand sourire, la lumière la plus brillante, la plus grande amie. Lorsque les sirènes ont retenti alors que l'attaque du Hamas se déroulait, Romy a appelé sa famille. Sa mère Merav se souvient avoir entendu des coups de feu et des cris en arabe lors du dernier appel avec sa fille, qu'elle a donc retrouvée aujourd'hui. Doron, aujourd'hui libre aussi, est une infirmière vétérinaire de 31 ans. Elle avait été kidnappée par le Hamas dans son appartement du kibboutz Kfar Aza. En mai de l'année dernière, sa sœur Yamit Ashkenazi a écrit une lettre émouvante qu'elle a publiée sur le site du Forum des otages et des familles disparues, la qualifiant de rayon de soleil. Elle a étudié le théâtre et le cinéma à l'école et a développé un amour pour les animaux qui l'a emmenée à devenir infirmière vétérinaire. Et enfin, Émilie Damari, aujourd'hui libre, elle aussi est une jeune femme de 28 ans qui possède la double nationalité britannique et israélienne. Elle avait, elle aussi, été prise en otage au kibboutz Kfar Aza le 7 octobre 2023. Tout ce que la mère d'Émilie, Mandy, veut faire, c'est serrer Émilie dans ses bras, mais elle ne croira pas tant qu'elle ne l'aura pas vue. C'est désormais chose faite. Fan de Tottenham Hotspur, Émilie allait souvent rendre visite à ses proches, assister à des concerts, faire du shopping. Sa mère, Mandy Damari, avait déclaré à la BBC qu'Émilie était le noyau de notre famille et ce noyau manque. Il est désormais retrouvé. Ces 3 jeunes femmes sont rentrées à la maison en Israël et on va simplement rappeler que sur les 37 résidents du quartier dit des jeunes du kibboutz Kfar Aza, 11 ont été assassinés et 7 ont été enlevés et emmenés dans la bande de Gaza, dont 2 sont donc revenus aujourd'hui en Israël.
Elsa Pariente, de son côté, le service pénitentiaire israélien a reçu la liste des 90 prisonniers palestiniens qui ont été libérés dans le cadre d'un accord sur les otages. À leur arrivée, ils ont été identifiés par les représentants de la Croix-Rouge. 12 d'entre eux seront libérés à Jérusalem-Est et en Judée-Samarie. Le forum des familles d'otages et de disparus se sont aussi également apprêtés à accueillir les otages et des milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi sur la place des otages de Tel Aviv. Des foules d'Israéliens se sont rassemblées sur la place des otages pour soutenir les familles et pour regarder les moments historiques et émouvants, a indiqué le forum, avant d'ajouter qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du peuple d'Israël avec nous jusqu'au dernier otage. Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé sur la libération donc, de ces trois otages. Une nation entière se réjouit de votre retour. Nous vous envoyons à vous et à vos familles, a-t-il écrit sur X, avant d'ajouter « Nos pensées vont à toutes les familles angoissées et en deuil dont les proches ne sont pas encore rentrés. Nous ne reposerons pas et ne resterons pas silencieux tant que nous n'aurons pas ramené tous nos frères et nos sœurs de l'enfer, de la captivité à Gaza. » Le gouvernement britannique a salué également la présence de l'israélo-britannique Émilie Damari et a exhorté les deux parties à mettre en œuvre pleinement Israël, l'accord de cessez-le-feu, une joie que partage également Donald Trump. Les otages commencent à sortir aujourd'hui. Trois merveilleuses jeunes femmes seront les premières à être libérées, a écrit le 47e président des États-Unis sur son réseau social Truth Social. Et puis Benjamin Netanyahou a par ailleurs lui aussi pris la parole pour exprimer sa joie concernant la libération des otages. On l'écoute.
Non.
Vous m'entendez ? Tu m'entends ? Oui, monsieur le Premier ministre. Nous sommes ici au poste de commandement avec le Mossad, avec le Shabak, avec toute l'équipe. Et je voudrais vous passer l'une de nos otages qui est dans les mains de nos forces. Elles ont passé la frontière et elles sont sur notre territoire. Les otages sont en Israël ? Elles arrivent. Tu m'appelles quand elles arrivent ? Quand elles sont sur notre territoire à nous. C'est très, très impressionnant. C'est très... qu'on ramène à la maison nos otages. Je veux que tu leur dises à Emily, à Doron, à Ronnie, que nous les embrassons. Je sais, tout le monde sait. Elles sortent de l'obscurité vers la lumière et vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. Grâce au combat de nos soldats qui sont des héros, d'Israël. Je peux même promettre, toi, tu laisses ouvert ton téléphone jusqu'à ce qu'on ait ramené tout le monde. Et je te dis à toi et à tous ceux qui sont autour dans ton équipe que nous allons obtenir tous les objectifs, nous allons atteindre tous les objectifs que nous avons décidés. Dis-leur. Il faut donner toute l'aide possible après aux otages quand ils seront dans vos mains. C'est très émouvant. Beaucoup de bracha. Nous continuerons et nous amènerons tout le monde à la maison.
Voilà donc Netanyahou qui s'est exprimé sur la libération donc de ces trois otages. Un accord qui est loin donc de faire l'unanimité au sein de la classe politique israélienne. En effet, après avoir menacé de quitter l'exécutif, si l'accord sur les otages était approuvé, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a officiellement annoncé sa démission du gouvernement avec les membres de son parti Otzma Yehudit. Le parti d'extrême droite a précisé qu'il ne fait désormais plus partie de la coalition, mais Itamar Ben-Gvir a indiqué qu'il pourrait revenir si la guerre contre le Hamas reprend avec intensité pour atteindre une victoire décisive et les objectifs de guerre non atteints. Le gouvernement l'a confirmé. Le terroriste qui a tué deux Israéliens à Tel Aviv en 2015 ne sera pas libéré dans cet accord. En effet, face à cette vague de libération de terroristes, le forum Choisir la vie a informé la Haute Cour de justice que la loi stipule qu'une personne condamnée pour meurtre pour lequel le tribunal a établi qu'il a été commis dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle ne peut être incluse dans une décision de libération de prisonniers. Cela fait donc suite à la décision approuvant les noms des 737 terroristes qui seront libérés dans le cadre de l'accord sur les otages. Et puis 200 camions d'aide avec du carburant sont arrivés au point de passage de Kerem Shalom avant leur entrée à Gaza. Il est indiqué que les camions resteront au point de passage jusqu'à ce que la maintenance du point de passage de Rafah soit terminée. Nous n'aurions pas eu d'accord si le Hamas n'avait pas été dans une situation si difficile. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, en visite auprès des soldats de la brigade Nahal dans le secteur de Beit Aoun, dans la bande de Gaza. Le chef d'état-major a également fourni un bilan précis des opérations depuis le 6 octobre 2024, Quand nous avons commencé l'opération dans le nord de la bande de Gaza, nous avons tué environ 3000 terroristes et en avons capturé des centaines. Le ministre des Affaires étrangères, de son côté, Gideon Saar, a affirmé que si l'organisation terroriste palestinienne conserve le contrôle de la bande de Gaza, le groupe constituera une menace non seulement pour l'État hébreu, mais aussi pour l'ensemble de la région. Le règne du Hamas à Gaza n'est pas seulement un danger pour la sécurité d'Israël, mais aussi un cauchemar pour les Palestiniens eux-mêmes, puisqu'il est à l'origine de 15 mois d'une guerre éprouvante dans l'enclave palestinienne et dans la région, a déclaré Saar aux médias étrangers lors d'une réunion d'information à Jérusalem. Et puis cette nuit, à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les forces spéciales israéliennes ont récupéré le corps du soldat Oron Shaul tombé en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice. Face au succès de cette opération, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu à féliciter le Shin Bet et Tsahal pour leur ingéniosité et leur courage. Un faux départ et des tensions qui illustrent la fébrilité ambiante au Proche-Orient, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu censé ouvrir la première phase de l'accord entre le Hamas et l'État hébreu a été retardée ce matin de près de 3 heures. Le soulagement n'est pas complet, tempère Sacha Gozlan, avocat de proches d'otages au barreau de Paris et cofondateur de l'association des familles des victimes du 7 octobre. Sacha Gozlan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat et cofondateur de l'association des familles du 7 octobre. Cette semaine, nous avons appris qu'après plus d'un an de blocage, un accord de cessez-le-feu aura lieu aujourd'hui, ce qui permettra la libération des otages. Ma première question, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle ?
Ben, écoutez, la première réaction, c'est un soulagement prudent, puisque l'accord est important et il était attendu de la part des familles d'otages, évidemment. C'est un accord qui est extrêmement fragile puisqu'il s'étale sur une période de 42 jours pendant laquelle plusieurs groupes d'otages seront libérés par 3 ou par 4. Et surtout, nous n'avons à ce stade aucune information sur la vie ou la mort de certains otages. Et donc, certaines familles se préparent à organiser des retrouvailles et d'autres, malheureusement, des funérailles. Donc, un état d'esprit qui correspond à ce que vivent les familles et les proches d'otages depuis 15 mois maintenant, à savoir l'attente, une attente insupportable, une attente longue et douloureuse, qui s'inscrit dans le cadre des crimes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre et qui se poursuivent, puisque la torture psychologique que fait subir le Hamas aux familles et aux proches d'otages, elle se poursuit, elle s'inscrit dans la continuité des crimes qui ont été commis le 7 octobre. Et c'est le Hamas qui fait le choix de ne pas informer les familles sur la vie, la mort des otages, sur leur état de santé. C'est le Hamas qui a choisi de ne pas leur livrer de médicaments. C'est le Hamas qui choisit de maintenir cette pression absolument insupportable sur les familles depuis maintenant 15 mois.
Alors, comme vous l'avez donc précisé, donc l'accord prévoit qu'il s'étale maintenant donc sur 6 semaines précisément. Est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu va durer et qu'il ne sera pas rompu ?
On l'espère. On l'espère de tout cœur pour les familles. Et puis on espère surtout que le plus possible d'otages rentreront vivants chez eux et qu'ils pourront être pris en charge. Maintenant, on sait bien que dans cette région, et compte tenu des différents fronts auxquels fait face Israël, ce cessez-le-feu, il est évidemment fragile. Il nous faudra tout faire pour s'assurer que les otages rentrent chez eux. Mais par ailleurs, quand bien même cette première phase de l'accord serait respectée, il resterait encore plus de 65 otages qui seraient retenus à Gaza à l'issue de cette première phase. Donc de toute façon, le combat que mènent les familles et que nous représentons à Paris avec mes confrères, ce combat-là, on continuera à le mener tant que tous les otages n'auront pas été libérés, et même après, puisqu'on est dans le temps diplomatique, mais viendra le temps judiciaire, et nous serons là aussi pour accompagner les familles et les proches dans la phase judiciaire.
En échange, Israël va relâcher plus d'un millier de terroristes palestiniens. Est-ce que vous pensez que c'est un bon accord ?
Vous savez, moi, je ne suis pas géopolitologue, je ne suis pas un spécialiste de la guerre. En revanche, ce que je sais, c'est que ces familles que nous accompagnons depuis 15 mois, la seule chose qu'elles demandent, c'est que leurs proches rentrent à la maison. Et Elle voit bien, ses familles, que le prix payé par Israël pour libérer leurs proches est extrêmement lourd. Elle le constate, mais elles sont face à un choix qui est impossible. Si l'un des vôtres était retenu, évidemment, vous feriez tout pour pousser pour leur libération. Et c'est ce que font ces familles en maintenant la pression auprès du gouvernement et puis auprès des opinions publiques internationales depuis 15 mois. C'est la raison pour laquelle, quand bien même cet accord serait fragile et le prix serait lourd pour Israël, excusez-moi, elles se battent pour obtenir la libération de leurs proches.
Un accord donc longtemps espéré. Est-ce que vous pensez que les négociations se sont accélérées à l'approche de la prise de pouvoir du président américain Donald Trump, qui prendra d'ailleurs le pouvoir demain?
Oui, de toute évidence, Donald Trump a pesé tout son poids dans la région pour faire en sorte que cet accord soit signé. Et évidemment, le changement de présidence américaine a joué dans l'accord de négociation qui a cours en ce moment.
Alors, capturé à seulement quelques mois, Kfir Bibas a fêté hier ses 2 ans. Par ailleurs, des centaines de personnes se sont réunies à Tel Aviv, mais aussi place du Trocadéro à Paris, pour célébrer son anniversaire. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que le plus jeune otage figurait sur cette liste?
C'est effroyable. C'est penser qu'un petit garçon a vécu ses 2 anniversaires, de 1 an et 2 ans, dans des tunnels du Hamas, et que la moins pire des hypothèses, c'est qu'il ait vécu ses anniversaires dans ces conditions-là, parce qu'on craint évidemment fortement qu'il ait été assassiné, comme la famille Bibas. C'est évidemment effroyable, c'est contraire à toutes les conventions internationales en matière de droits de l'homme, toutes les conventions internationales en matière de droits de l'enfant. Et évidemment, la libération des enfants Bibas de Kfir est essentielle.
Vendredi sur X, le président français Emmanuel Macron a annoncé que 2 otages franco-israéliens, donc Ofer Calderon, 54 ans, et Ohad Yahalomi, 50 ans, figuraient également sur cette liste, qui doivent être libérés par l'organisation terroriste. C'est une joie mesurée pour la diplomatie française?
Mais écoutez, c'est évidemment important, hein. La France, elle est importante dans le concert des nations, et parce que certains de nos compatriotes sont retenus en otage par le Hamas, la diplomatie française a tenté de se mobiliser au maximum. Le 7 octobre est aussi une histoire française, pas seulement une histoire israélienne. C'est ce que nous rappelons inlassablement depuis que nous savons que des otages français sont retenus par le Hamas. Donc maintenant, la diplomatie française ne devra pas s'arrêter le jour où Ofer et Ohad seront remis à leurs proches, à leurs familles, et qu'ils seront en sécurité. Mais encore une fois, nous ne savons pas si Ofer et Ohad, alors, sont vivants ou s'ils ont été assassinés. Et s'ils sont vivants, dans quel état ils sont? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils ont été pris en charge? A priori, on sait que les otages qui ont été libérés en novembre 2023 ont vécu des conditions dans les tunnels qui étaient effroyables, que certains témoignaient de ne pas avoir vu la lumière du jour de toute leur captivité. Donc évidemment, il faudra les accompagner, les prendre en charge au plan physique et psychologique.
Merci beaucoup, Sacha Gozlan. Je rappelle que vous êtes avocat et cofondateur de l'Association des familles du 7 octobre.
Merci.
Et puis hier soir, quelques milliers de personnes se sont rassemblées place du Trocadéro à Paris, mais aussi à Tel Aviv. De nombreuses personnalités publiques et politiques ont participé à l'événement. L'humoriste Arthur, lui, est revenu au micro de Rallo Shalom sur l'accord de cessez-le-feu et de la libération des otages.
Heureux, triste, bouleversé. Dans quel état on va retrouver nos otages? On ne sait pas ceux qui sont vivants. Dans une semaine, on aura des familles qui célébreront le retour de leurs proches et d'autres qui enterreront les leurs. Donc, bien sûr qu'on est content que ce cauchemar se termine, mais heureux, c'est pas le mot, quoi. Et puis il y a l'après, c'est-à-dire ces gens qui vont sortir traumatisés des tunnels et à qui on va expliquer qu'ils ont perdu leurs proches, qu'ils n'ont plus de parents, qu'ils sont orphelins. Enfin, ce n'est que le début du cauchemar. Mais en tout cas, c'est une lueur d'espoir pour que les familles puissent retrouver leurs êtres bien-aimés et aussi faire leur deuil.
Parmi les Israéliens capturés le 7 octobre 2023, le plus jeune d'entre eux, Kfir Bibas, a fêté ses 2 ans. Sur place, la foule a vacillé entre soulagement et angoisse à quelques heures avant l'entrée en vigueur d'une trêve devant permettre la libération des premiers otages. Jérémy Chichporti.
Nous sommes tous Kfir Bibas ce soir parce que Kfir a 2 ans et nous le souhaitons tous son anniversaire ce soir. Je voudrais dire à Monsieur le Président que Kfir subit depuis tout ce temps un calvaire injustifiable, bravo, un calvaire insupportable, un calvaire inqualifiable. Monsieur le Président, vous qui avez une si bonne professeure de français à votre chevet, que sont ces mots? Que sont ces mots? Je suis Kfir Bibas, nous sommes Kfir Bibas, vive Israël, vive la liberté, vive la paix!
Place du Trocadéro, des milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter le discours d'Ange Dan Calderon, cousin d'Ofer, retenu en otage depuis une quinzaine de mois par les terroristes du Hamas. Ce rassemblement a été organisé par le collectif tout 7 octobre pour marquer le 2e anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune otage du monde, à la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et des premières libérations de captifs de la bande de Gaza. Avec la mise en œuvre de la première phase de cet accord, une période mêlant espoir et angoisse s'ouvre, comme nous le confie Ange Dan.
Vous vous rendez compte que là, on va peut-être attendre 9 semaines en récupérant peut-être un mort qu'il va nous falloir enterrer et qu'on va devoir vivre pendant 9 semaines avec cette pensée-là. Alors bien sûr, je la chasse de mon esprit, nous la chassons tous. On ne veut pas savoir, on veut pas croire ça. On veut être persuadé qu'il va sortir vivant. Mais au fond de nous, on sait très bien qu'il y a ce risque.
Sur scène, une horloge égrène les jours de captivité des otages du Hamas dans la bande de Gaza, 470. Dans la foule, les étoiles de David et drapeaux israéliens côtoient le tricolore français, souvent orné de rubans jaunes. Beaucoup brandissent des portraits d'otages, principalement à l'effigie de Kfir Bibas, qui fêtait hier soir son 2e anniversaire. Appuyé contre la barrière, Marc Daniel aborde un t-shirt orange avec l'inscription « Libérez ma famille maintenant », barré sur une photo de la famille Bibas. Selon lui, voir le petit garçon libéré par les terroristes relèverait du miracle.
C'est peut-être l'otage emblématique avec son frère. Et c'est quelque chose, enfin, là aussi, avoir un otage de cet âge-là, là aussi, encore une fois, c'est inhumain comment on peut faire ça. Et là aussi, enfin, si on pouvait, évidemment, c'est une petite lueur d'espoir dans une grande nuit de l'avoir vivant, quoi. Ce serait de le revoir vivant.
Au micro, dos à la tour Eiffel, les prises de parole s'enchaînent. Ayelet Samirano, qui a perdu son fils le 7 octobre 2023, assassiné par un membre de l'UNRWA, témoigne de son deuil. Depuis, elle parcourt le monde pour sensibiliser. Sur un écran géant, les images de l'enlèvement de son garçon sont diffusées, provoquant un frisson de colère dans la foule. Interrogée par Radio Shalom, Ayelet déclare ne pas être satisfaite de l'accord signé mercredi dernier, même si elle y voit un premier pas.
Each hostage that will come home, it's you know,
je pense que chaque otage qui revient à la maison, c'est une victoire pour tout le monde. C'est une victoire pour nous tous. Je suis une mère. Je veux aussi retrouver mon fils. Alors je peux être heureuse pour toutes les familles qui vont revoir le leur, mais je ne retrouverai pas mon fils. Et pourtant, je continuerai à l'aimer profondément. Toutes les familles des otages partagent ce sentiment. Elles veulent aussi retrouver leurs proches. Elles ne peuvent pas accepter que seulement une partie des otages soit incluse dans cet accord. Parce qu'il n'y a aucune raison, après tout ce temps passé à attendre, après tous les soldats qui ont été tués, après toutes les personnes qui ont perdu la vie, il n'y a aucune raison d'en arriver à ce point, que seulement 33 personnes soient libérées au lieu de 94. Voilà l'issue qui nous est proposée. Priez pour nous intensément, car nous voulons retrouver nos enfants en paix. Et nous les voulons tous, pas seulement 33.
Our children home. And we want them all, not just 33.
Depuis une quinzaine de mois de guerre, chaque vendredi, les mères de l'espoir se rassemblent place du Trocadéro pour réclamer la libération des otages détenus par le Hamas. Pour Jérémy Redler, maire du 16e arrondissement de Paris, il était évident que ce rassemblement, organisé à la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, devait avoir lieu ici, sur cette place.
Le 16e arrondissement a toujours été au-devant des combats contre l'antisémitisme, au-devant du soutien pour Israël. Et tous les vendredis, vous savez, nous sommes réunis sur cette place, tous les vendredis à 12h15, depuis le 7 octobre, pour demander la libération des otages. Et encore ce soir, nous devons crier haut et fort que ces otages sont détenus par une organisation terroriste et que nous continuons à demander leur libération.
Rebaptisée Place des Otages, le temps d'une soirée, la place du Trocadéro au cœur de la capitale française battait hier à l'unisson avec le Kikar Hatoufim de Tel Aviv dans l'attente de la libération des 94 Israéliens toujours prisonniers dans la bande de Gaza.
Jérémy Chichportich. Et enfin, à quelques heures de son investiture, Donald Trump et son épouse sont arrivés samedi soir à Washington DC. Demain, le milliardaire américain deviendra le 47e président des États-Unis à midi pile heure locale, en prêtant serment sous la coupole du Capitole. Cette cérémonie sera suivie des adieux officiels du président sortant Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.